Riviri, dans le centre de l'Ukraine. C'est ici que Volodymyr Zelensky est né il y a 45 ans. Andrei, son ami d'enfance, se souvient de leurs années, ici, à l'université.
Regardez, Volodymyr, à droite sur la photo.
Aujourd'hui devenu recteur, Andrei tient à nous montrer le bureau du jeune Volodymyr, qu'ils ont gardé en son honneur. À l'époque déjà, il se distinguait, dit-il, par ses prises de parole.
C'est ici, dans cette salle, que Volodymyr Zelensky et ses copains d'équipe préparaient leurs sketchs. C'était difficile pour eux, mais ils essayaient toujours d'être les meilleurs. C'est pour ça qu'ils les jouaient d'abord devant leurs amis les plus critiques.
Humoriste, producteur, Zelensky est aussi acteur. À l'époque, il se fait surtout connaître dans cette série. Pendant 3 ans, il fait rire toute l'Ukraine. Il y tient le rôle d'un professeur d'histoire qui se retrouve, malgré lui, à la tête du pays. Mais en 2019, la réalité rejoint la fiction. Il est élu président et ses premiers mots résonnent encore aujourd'hui.
Je ne vous laisserai jamais tomber.
Alerte aérienne oblige, nous retrouvons Andrei dans le bunker de l'université. Pour lui, cette série télé faisait, dit-il, partie de son plan de carrière politique.
La série a été présentée comme quelque chose qui nous touchait de manière naturelle. C'était comme un rêve qui pouvait devenir réel. Tout de suite, je me suis rendu compte que le timing était parfait pour lui à l'approche des élections. C'était l'occasion idéale de préparer l'électorat avec toute une série de détails.
Ses talents d'acteur, il les met au service de son peuple, mais peine à s'imposer dans le pays. Juste avant l'invasion russe, la cote de popularité de Volodymyr Zelensky n'avait jamais été aussi basse, avec seulement 23% d'opinion favorable. Dans son quartier d'enfance, si tous sont fiers de son parcours, certains voisins ne sont pas encore convaincus par la politique interne du président.
Cela ne me plaît pas de voir que la majorité des fonctionnaires nommés à des postes clés sont issus du parti de Zelensky.
Je crois que s'il y a des élections après la guerre, il n'y a donc pas du tout de sûreté qu'il va les emporter. Je pense même qu'il y a des très fortes chances qu'il va perdre les élections. Après la guerre, les challenges seront tout autres. Et on ne sait pas encore est-ce que Zelensky sera à l'auteur de ces défis.
Mais depuis le début de la guerre, omniprésent sur les réseaux sociaux, il l'est aussi sur la scène politique nationale et internationale. Depuis, l'homme a changé. Il a troqué ses costumes contre des vêtements militaires. Il porte la barbe et d'après son ami au Parlement, Zelensky ne dort plus que 3 ou 4 heures toutes les nuits.
2 mois avant l'invasion russe, il est devenu de plus en plus sérieux et ses blagues de moins en moins nombreuses.
Unité nationale oblige, aujourd'hui sa cote de popularité dépasse les 90%. Volodymyr Zelensky, c'est un parcours hors norme et inédit pour un homme d'État qui a déjà marqué l'histoire de son pays.
Publier un dessin dans le Vif de la semaine, vous imaginez Poutine qui fait un cauchemar et qui devient peace and love, Nicolas?
Non, c'était dans l'écho de samedi.
C'était dans l'écho, pardon.
C'est mon grand dessin qui paraît le samedi dans l'écho et je l'imaginais dans son grand lit de dictateur qui se réveille en sursaut. Il a fait un épouvantable cauchemar, c'est-à-dire que son sosie a pris sa place et sortait un discours de paix qui est calqué sur celui du barbier juif qui est le sosie d'Adenoïd Hinkle dans la scène finale du dictateur de Chaplin. Parce que ce que je voulais montrer dans ce dessin, c'est que souvent le tragique et le grotesque sont toujours proches et se nourrissent en permanence l'un l'autre. C'est tragique quand on consiste à croire qu'on a un destin et le grotesque qui vient nous rappeler que nous sommes toujours tout petits et de brefs passages sur Terre. Donc je me dis parfois, si jamais Poutine a un peu de recul, qu'il voit ses affidés lui cirer les pompes, ou quand il sort sa tirade délirante sur la dénazification de l'Ukraine, il doit se dire que le ridicule pointe au coin de la rue, mais c'est un ridicule malheureusement tragique à la fois pour la population ukrainienne et pour les soldats russes. Et ça fait un miroir avec Zelensky, parce que je pense que Zelensky tire sa force du fait que lui, il a fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'il a démarré par le grotesque, mais un grotesque assumé, quand il se moquait des puissants, pour aller au tragique en résistant maintenant héroïquement. Et je pense que cette ironie qui a constitué son métier d'humoriste pendant tant d'années, c'est une armure supplémentaire pour lui, parce qu'il ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas, c'est à savoir un tsar ou un dirigeant immortel. Et donc cette tirade géniale du dictateur qui date de 1940, et dont on dit que Hitler lui-même s'était fait livrer une copie qu'il avait vue plusieurs fois, ça, on voit que en fait le roi est nu, et donc ce que j'ai voulu dessiner, mais c'est un vœu pieux, c'est un Poutine qui soudain deviendrait pacifiste, mais malheureusement c'est pas la réalité que l'on voit actuellement.
Voilà, l'ironie du côté du président ukrainien et le grotesque du côté du président russe Nicolas Vado. Pierre Kroll, l'un de vos derniers dessins sur l'Ukraine montre une pluie d'armes qui s'abat sur une ukrainienne, les missiles russes d'un côté et les chars allemands de l'autre. Ce foisonnement d'armes que vous retenez aussi de ce conflit, Pierre Kroll?
Oui, surtout, effectivement, d'un côté, il y a les chars que nous avons décidé d'envoyer, je dis nous, enfin l'Europe, les alliés de l'Ukraine, pas très facilement, hein. Il a fallu beaucoup d'insistance des Ukrainiens pour obtenir ces chars Léopard des Allemands et les chars Abrams des Américains. Et de l'autre côté, c'était à peine décidé qu'une pluie à nouveau de missiles, moi j'ai été chercher sur Internet pour les dessiner, puisque je fais de l'image, hein. Je crois que c'est des Zircons, des avant-gardes, enfin voilà, je m'amuse un peu à dessiner des missiles qui ressemblent vraiment à des missiles, mais ça n'a rien de drôle. Mais ce que je veux montrer dans ce dessin, c'est un peu la simultanéité. À chaque fois qu'on fait évidemment un mouvement dans un sens, on a la réponse dans l'autre, ça s'appelle une guerre. Mais il y a dans le dessin, et c'est un peu facile pour un dessinateur d'utiliser des petites images connues comme celle de la colombe de la paix, elle sera d'ailleurs dans les deux dessins qu'on évoquera ce matin, la colombe de la paix fuit sur la droite du dessin et s'en va parce qu'elle est sans doute pas concernée avant longtemps, la paix. Parce que ce que le dessin peut évoquer, c'est que il va devenir difficile avec tous les chars qu'on envoie là-bas de prétendre que nous sommes toujours... que nous ne sommes pas des belligérants dans ce conflit et que nous, les alliés de l'Ukraine, nous donnons un petit coup de main comme ça, voilà, en envoyant du matériel de temps en temps. Et à chaque fois qu'on en envoie, l'Ukraine en réclame plus. Je n'ai pas rêvé. Maintenant, Zelensky demande des avions de chasse. Demande des choses qui sont pas des armes, aussi, mais qui nous poussent toujours plus loin, hein, que l'on boycotte, que l'on interdise aux Russes de participer aux Jeux Olympiques. Bon, ce sont des détails, tout ça. Mais ça veut dire qu'il va devenir de plus en plus difficile de nous mentir à nous-mêmes et de faire croire à Poutine que nous ne sommes pas vraiment des belligérants dans cette histoire. Et c'est ce qu'un petit dessin comme ça peut aussi évoquer. Et puis, ce que vous évoquez, le fait que ça fait un an que cette guerre a commencé, se pose la question de savoir, évidemment, depuis toujours, quand elle va finir. Alors, j'entends dire partout, Poutine a déjà perdu parce qu'il espérait la gagner très vite. Ben, je crois que nous, on espérait que les Ukrainiens la gagnent très vite aussi, hein, pour ne pas être engagés dans une espèce de guerre mondiale, dans un effondrement partout. Or, maintenant, les Ukrainiens disent qu'ils veulent une victoire totale, et évidemment qu'on les comprend. Ils veulent que les Russes repartent, s'excusent, disent pardon, on ne le fera plus, rendent tous les territoires annexés, plus la Crimée, et qu'à la limite, on entend dire ça aussi beaucoup des Ukrainiens et de certains alliés, que le pouvoir explose ou implose en Russie et que Poutine disparaisse. Mais tout ça, c'est un monde de demain qui, je crois, nous fait peur ici. Et donc, je pense que les deux camps, malheureusement pour les Ukrainiens, sont partis pour une guerre très longue. Nous, on n'a peut-être pas intérêt à ce que quelqu'un la gagne trop vite, et Poutine n'a pas intérêt, enfin, sa seule chance de la gagner, c'est de faire durer. Je voudrais rappeler qu'il a des élections en vue en 2024. Ça paraît loin, mais il y a déjà un an de passé, une deuxième année passera vite aussi.
Ouais, la colombe de la paix qui s'en va, qui quitte l'Ukraine. Nicolas Vado, vous ne voyez pas, vous non plus, la fin d'un conflit dans les semaines ou dans les mois qui viennent? Ça va durer?
Oui, je pense que ça va durer. Et en plus, si jamais... le principal problème, c'est Poutine. Mais si Poutine disparaissait d'une manière ou l'autre, ce qu'il y aurait après lui pourrait être éventuellement encore pire. Donc c'est ça qui est très difficile. Qu'est-ce qui va se passer ensuite pour l'Ukraine quand la guerre sera finie? Est-ce qu'elle pourra rejoindre l'OTAN, voire l'Union européenne? Ce sont des choses qui sont extrêmement compliquées, qui étaient totalement taboues il y a quelques mois et qui ne le sont plus. Donc nous, on dessine... Vous savez, les dessinateurs de presse sont un peu des historiens du quotidien. Donc on dessine ça au jour le jour, et on peut regarder ce qu'on a fait il y a un an, ce qu'on a fait il y a six mois. Il y a des dessins qui tiennent le coup, d'autres qui tiennent moins, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on documente une guerre proche de nous au jour le jour, et c'est vrai que quand on regarde les dessins depuis un an, c'est quand même pas très encourageant. Mais après, il faut se mettre à la place des gens qui étaient en guerre en 1940-41 et qui se disaient combien de temps ça va durer. Les guerres, heureusement, finissent toujours un jour. Il faut voir dans quel état ce sera et où seront les forces en présence, et où l'Europe aura-t-elle délimité sa frontière à l'Est? Parce que c'est ça la grande question.
Ouais. Et puis un autre conflit que l'on va aborder avec vous et qui sera l'occasion d'aller rechercher des dessins encore beaucoup plus anciens, ceux-là, conflit en train de se raviver au Proche-Orient, conflit israélo-palestinien qui a de nouveau fait des victimes ce week-end. 7 morts à proximité d'une synagogue à Jérusalem-Est, tués par un Palestinien de 21 ans qui a été abattu. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réagi.
Nous ne cherchons pas à provoquer une escalade, mais nous sommes préparés à toute éventualité. Nous répondons au terrorisme par une action ferme, une réaction puissante, rapide et précise.
Et un raid israélien a fait 10 morts ce week-end en Cisjordanie. De nombreuses voix s'élèvent un peu partout dans le monde. Le pape Emmanuel Macron, par exemple, pour demander aux Israéliens et aux Palestiniens de mettre fin à cette spirale de la violence. Pierre Kroll, vous avez désigné Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain qui arrive aujourd'hui en Israël, et qui n'a, selon vous, aucune chance d'apaiser les tensions. Enfin, si je comprends bien votre dessin, en tout cas.
Oui, vous l'avez bien compris. Ce n'est qu'un petit point de vue, comme ça, au passage, puisque Nicolas disait que notre métier est de documenter le quotidien. Moi, je ne vais pas refaire tout le conflit israélo-palestinien. J'ai des dessins depuis 35 ans, évidemment, sur la question. Celui-ci est vraiment d'aujourd'hui, puisque Blinken va cet après-midi à Jérusalem. Et j'ai repris ce petit personnage, bien connu de la colombe de la paix, avec son rameau dans le bec, et qui dit à Blinken, je vous souhaite bonne chance, ou plutôt, je pense que vous n'en avez aucune.
Vous n'avez aucune chance
de quoi ? Aucune chance de ramener la paix et que demain les Palestiniens et les Israéliens se serrent la main ou se serrent dans les bras. Je pense que c'est plus que jamais impossible. Et moi, j'observe, je vous disais, forcément, un peu comme tout le monde, ce conflit depuis longtemps, mais aussi avec mes confrères dessinateurs. Hein. Je voudrais saluer Michel Kishka, qui dessine en Israël et qui est connu en Belgique aussi. Et puis, par exemple, un défunt, Bahaa Boukhari, un grand dessinateur palestinien que j'ai bien connu, que j'aimais beaucoup, et qui disait, souvenez-vous, qui répétait tout le temps, nous devrions juste apprendre à vivre en voisin avec respect. Avec respect. C'est un Palestinien qui parle. Hein. Tous les Palestiniens ne mettent pas des bombes à tous les coins de rue. Il y en a qui implorent que l'on vive en voisin avec respect. Et ce respect, mais il a totalement disparu de la part des autorités israéliennes. J'ai fait un autre dessin un peu récent qui montrait une sorte de monstre que Netanyahou avait créé. Ce monstre, c'est le gouvernement israélien actuel. C'est un gouvernement où il n'y a plus une seule personne qui a le moindre respect pour les Palestiniens. Ne parlons pas de l'espoir d'un État palestinien ou de cette soi-disant solution à deux États. Il n'y a plus personne dans les politiciens au pouvoir en Israël qui cherche autre chose que de détruire du Palestinien tous les matins. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est leur déclaration. On a cité leur nom tout à l'heure dans la revue de presse, Itamar Ben-Gvir, il y a Bezalel Smotrich. En fait, tous ces gens sont des pires que radicaux. Et tous les colons qui s'installent, ce n'est pas un petit agrandissement progressif d'Israël vers des territoires vides. Hein, c'est pas ça du tout. Ce sont des radicaux, des intégristes religieux juifs qui prennent des terres, des maisons aux Palestiniens arabes de l'autre côté avec haine et pour y instaurer, enfin pour y refaire démarrer une haine perpétuelle. Je suis extrêmement pessimiste, je ne suis pas très drôle ce matin, mais enfin l'actualité, vous admettrez, ne l'est pas beaucoup.
Certes.
Et donc voilà, ce dessin donne mon état d'esprit. Je crois qu'on est mal barré là-bas pour longtemps et que Blinken va vite retourner à Washington.
Voilà votre point de vue sur ce gouvernement de Benjamin Netanyahou, le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. Nicolas Vado, vous avez beaucoup dessiné, vous aussi évidemment, sur le conflit au Proche-Orient. C'est toujours un peu les mêmes dessins, toujours un peu la même histoire?
Oui, je dis souvent que c'est un peu comme les dessins sur le communautaire en Belgique, ce sont les dessins les plus écologiques parce qu'on peut les recycler indéfiniment. Et c'est un peu triste malheureusement parce que si vous regardez les dessins qu'on a pu faire il y a 20 ou 30 ans, vous les ressortez aujourd'hui, ils sont pareils. Moi je me souviens un jour, j'étais en Tunisie, j'avais parlé avec un professeur d'histoire tunisien et qui m'avait dit « si vous avez compris le conflit israélo-palestinien, c'est parce qu'on vous l'a mal expliqué ». Et ça voulait tout dire. Et un autre jour, je me suis retrouvé à Paris avec, on parlait de Kishka, mais aussi avec Khalil Abou Arafé, qui est un dessinateur palestinien. Ils vivent tous les deux à Jérusalem, ils sont très copains. Et moi, j'ai pas lu le Coran, et je lui ai dit, toi, t'as lu le Coran ? Il dit, oui, j'ai lu le Coran. Qu'est-ce qu'il y a dans le Coran ou dans la Torah ? Il me dit, bah, c'est simple, si tu veux y trouver de l'amour, tu y trouves de l'amour. Si tu veux y trouver de la haine, tu y trouves de la haine. Et c'était chouette de voir Khalil Abou Arafé et Michel Kishka, qui sont l'un et juif, l'autre et palestinien, qui vivent dans la même ville et qui s'entendent très bien. Ça serait bien si ça pouvait être le cas pour tout le monde là-bas. Évidemment, on est très loin de ça. Et puis, évidemment, il y a un personnage central qui est quand même Bibi Netanyahou. Netanyahou, c'est sa 16e année comme Premier ministre. Il a été Premier ministre la première fois en 1996. Donc, alors, c'est une démocratie, il y a eu des moments où il n'était pas Premier ministre, mais des leaders qui sont là depuis 26 ou 28 ans, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Loukachenko qui est là depuis 94 en Europe. Le recordman du monde, c'est Teodoro Obiang en Guinée équatoriale qui a depuis 44 ans. Mais moi, je peux prendre des dessins que j'ai faits sur Netanyahou. C'était avec Arafat à l'époque en 97 et je peux ressortir ces dessins tels quels aujourd'hui. Et alors en plus, dans le cas de Benjamin Netanyahou, Netanyahou, c'est qu'il craint la prison, ça on le sait, parce qu'il y a beaucoup d'affaires de corruption qui collent au basket, donc il essaie de rester au pouvoir le plus possible. Et pour revenir à ce qu'on disait sur l'Ukraine, un personnage qui s'accroche tellement longtemps au pouvoir, il est tragique, mais il finit aussi par devenir grotesque.
Ouais. Pierre Kroll, est-ce que ces dessins sur le Proche-Orient, sur le conflit israélo-palestinien, vous ont amené davantage de critiques, de réactions, parce qu'on sait que c'est un sujet sensible ici aussi? Ça vous a amené beaucoup de réactions, ces dessins-là?
Oh, évidemment, à tous les coups. Mais là, on est parti pour une heure si je vous explique tous les problèmes que l'on rencontre, et pas que moi, tous les dessinateurs, parce qu'un dessin de presse, ça simplifie forcément les choses, ou ça les montre juste à un moment donné, et on nous reproche alors de ne pas refaire toute l'histoire et de ne pas recommencer partout. Mais puisque vous évoquez ça, je pense qu'il va devenir difficile, et je pense à tous les Israéliens qui ne soutiennent pas ce gouvernement, hein, qui sont quand même quasiment la moitié des Israéliens, que ça va être difficile pour nous de leur témoigner de la sympathie, quoi. Comment dire ça plutôt ? Nous avons naturellement, nous, une grande sympathie pour les victimes, quand les Israéliens le sont. Mais évidemment qu'on est dans leur camp face à des terroristes palestiniens, si vous voulez. Mais quand les Israéliens manifestent dans la rue pour demander le respect des droits des LGBTQI, pour le respect de la démocratie, pour le respect de la justice indépendante, mais on est naturellement plutôt avec eux. Et là, il sera difficile à d'autres Israéliens de nous dire que c'est de l'antisémitisme ou que c'est de la propagande pro-palestinienne. C'est défendre la démocratie et nos valeurs. Et il n'y a, semble-t-il, plus que la moitié des Palestiniens, des Israéliens qui le font, ou la moitié de leur classe politique.
Ouais, c'est donc votre point de vue, hein, Pierre Kroll, sur ce conflit israélo-palestinien, la situation là-bas. Nicolas Vado, même question pour vous. Est-ce que ce genre de dessins vous ont amené, vous aussi, beaucoup de réactions? C'est toujours un peu sensible quand on dessine sur le conflit israélo-palestinien, plus que sur d'autres sujets?
Oui, ça fait toujours partie du métier, c'est-à-dire au mieux on vous traite d'antisioniste, au pire d'antisémite, ou alors d'anti-arabe ou d'anti-musulman, mais ça fait partie du métier. Mais encore une fois, je reviens sur notre ami Kishka qui vit en Israël. Je lui avais dit il y a quelques semaines, si tu veux, tu peux prendre l'asile politique en Belgique, puisqu'il est belge aussi. Il m'a dit non, je préfère faire ça de l'intérieur, parce que c'est vrai ce que disait Pierre, c'est juste, il ne faut pas oublier qu'Israël est la seule véritable démocratie dans la région, et une grande partie de la population israélienne est totalement opposée à ce que fait ce gouvernement et cette négation constante du droit des Palestiniens. Mais c'est vrai que c'est un conflit qui est extrêmement clivant. C'est très difficile de dessiner de manière pertinente dessus, mais là dans mon cas je fais du dessin politique, c'est-à-dire je ne fais pas du dessin ethnique, je fais du dessin politique avec l'État d'Israël qui se comporte comme il se comporte vis-à-vis des Palestiniens, avec la spirale de la violence engendrée par les Palestiniens. L'une n'excuse pas l'autre, mais quand vous avez un gouvernement d'extrême droite assumé comme ça, il ne fallait pas s'attendre à grand-chose de positif.
Voilà, spirale de violence que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken va tenter d'apaiser. Il doit rencontrer aujourd'hui le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avant d'aller à Ramallah demain pour s'entretenir avec le président palestinien Mahmoud Abbas. C'était votre point de vue sur ce conflit israélo-palestinien, Nicolas Vado et Pierre Kroll. Merci beaucoup à vous